Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Le vendredi, nous sommes en compagnie d'Eva Barra qui nous apporte ses éclairages d'ethno-coach en fusion culturelle. C'est une discipline pour pacifier en fait les conflits entre nos différentes cultures. Hein, tu le confirmes bien, Eva. Merci de nous rejoindre. Comment ça va?
Écoute, je me porte bien et toi, comment tu te sens ici?
Ça va, on va dire, tout va bien.
Ok.
Alors, on a enchaîné, on a commencé une série sur l'éducation de nos enfants. On continue d'essayer d'apporter des pistes et des éclairages aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, ce matin, tu voulais nous proposer de nous parler des animaux de compagnie et de nos enfants. Quelle est l'influence des animaux de compagnie sur les enfants? Est-ce une bonne chose? Si oui, à partir de quel âge? Comment le choisir? Où se le procurer? Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire encore ce matin, Eva.
Totalement, encore un sujet qui occupe l'esprit de beaucoup de parents, et en tant que parents afro-descendants, c'est une question qu'on aborde sous un angle assez particulier. On est nombreux, déjà toi en ce qui te concerne, est-ce que quand tu étais enfant, on va commencer par nous-mêmes là, quand on était enfant, est-ce qu'on avait des animaux de compagnie?
Je crois qu'il y a un hamster qui a vécu quelques années, mais ça a un peu divisé tout le monde, ça a été un peu compliqué. Un chat aussi, mais ça va durer très longtemps.
D'accord, ok.
Mais bon, personnellement,
en tout cas,
moi,
il y a eu un passage.
Hein,
oui,
oui, il y a eu quelques passages assez compliqués, mais oui.
Ok. Alors moi, en ce qui me concerne, quand j'étais petite, j'ai demandé un animal de compagnie à mes parents, comme tout enfant qui vit ici, en tout cas en Occident. Et la réponse que ma belle-mère m'a fournie à ce moment-là, et qui me reste encore aujourd'hui, elle m'a répondu « J'ai pas encore fini de nourrir les humains.
»
Elle m'a dit « Quand j'aurai fini de nourrir les humains, on réfléchira à ta question d'animal de compagnie.
Ah. »
Bon, aujourd'hui, là, j'ai 35 ans, elle a pas encore fini. Hein. Mais à la fois, cette réponse, elle est percutante parce qu'elle pose le prisme, en fait. Elle pose le prisme, elle pose l'important, et elle pose surtout le fait que c'est vu comme une futilité, c'est vu comme un luxe d'avoir un animal de compagnie. Et puis aujourd'hui, il faut savoir qu'un animal de compagnie, on va le poser, c'est un animal avec lequel on va vivre au quotidien. C'est un animal qui peut être domestiqué, d'une espèce domestiquée, mais qui va vivre avec l'enfant de manière quotidienne. Eh bien, des animaux de compagnie, on peut partir des plus petits qui peuvent être qui peuvent être le poisson rouge, en passant par, justement, tu as parlé de l'hamster,
le lapin,
les tortues, après on arrive sur les chats, les chiens,
les oiseaux,
aussi les souris, les oiseaux, les lézards, etc., les oiseaux, les perroquets. Donc, animal de compagnie, c'est vraiment assez vaste. Et plus les enfants, ils avancent en âge, justement, il y a cette question qui arrive, en fait, où justement, ils demandent à leurs parents, est-ce que je peux avoir un animal de compagnie parce que mon copain a un chat, mon copain a un chien, ou ma copine a ceci. Moi aussi, je veux mon animal de compagnie. Alors, ce qui est important de nommer, c'est que déjà, l'enfant, pour lui, avoir un animal de compagnie, c'est avoir quelque chose, c'est avoir un être vivant qui lui appartient. Parce que, du coup, finalement, ses copains, ils sont libres. À la fin de la journée, ils rentrent chez eux. Ses parents ne lui appartiennent pas. Du coup, finalement, en tout cas, c'est plus les parents qui ont autorité sur lui que l'inverse. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous parents. Hein. Mais par contre, lui, en tant qu'enfant, il n'a autorité sur personne. Et quand il demande un animal de compagnie, la première chose, c'est vraiment là où il va venir chercher le lien, la connexion, où finalement, moi, je suis, entre guillemets, en position de pouvoir sur un autre être vivant. Et pour le coup, l'animal de compagnie va nourrir ce besoin de se positionner. Mais oui, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un animal de compagnie déjà?
Parce que eux, ils se disent, je vais pouvoir en faire ce que je veux, alors qu'en fait...
C'est exactement ça. Ils se disent que du coup, je vais pouvoir décider pour quelqu'un. Moi, on décide pour moi-même là. Mais moi aussi, je veux décider pour quelqu'un. Donc, moi, je dis à mon fils, hein, t'as autorité que sur tes doudous.
Et dans un seul périmètre, ta chambre.
Voilà, t'as autorité que sur tes doudous. Tu veux crier où ici? Pardon. Mais du coup, quand tu demandes les compagnies, ça vient compenser cette autorité dans un sens, c'est une des raisons qui peut faire qu'un enfant peut ressentir le besoin d'avoir un animal de compagnie.
Enfants solos, souvent, ils ont besoin peut-être de présence.
De la compagnie, exactement. Donc, du coup, ça fait de la compagnie, ça fait de la compagnie autre que les parents. Ça fait, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, il y a des anecdotes. Enfin, je suis sûre qu'il y en a énormément. Mais le chat, il est en train de dormir, l'enfant, il vient, il ramasse ça, il a besoin de jouer avec lui. Mais le chat, il était tranquille, en fait. Mais au final, les parents, quand ils nous demandent « Est-ce que tu peux jouer avec moi ?» On n'est pas disponible. On va dire non. Mais en fait, l'animal, il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Donc, il est disponible tout le temps. Donc, ils ont un copain disponible tout le temps. Mais en tout cas, eux, ils le voient en disponibilité tout le temps. Et puis, on dit « Je ne comprends pas, le chat, il est super gentil d'habitude. » Tout à coup, il a griffé l'enfant. Oui, bon, peut-être qu'il est venu le chercher aussi à un moment où le chat n'était pas disponible et l'enfant n'a pas su entendre que l'animal n'était pas disponible, par exemple. Donc oui, il y a aussi le fait de le besoin de compagnie, donc le besoin d'être, entre guillemets, en supériorité et d'avoir autorité sur un autre être vivant, parce que justement, c'est bien quand on joue à la poupée, à la Barbie, au doudou, aux figurines de super-héros. Oui, mais c'est nous, on fait tous les dialogues, là. En tant qu'enfant. Donc, avoir un être vivant, c'est justement rajouter un degré de véracité, en fait, dans le jeu. Et ensuite, il y a également le besoin de compagnie qu'on retrouve. Il y a le besoin de compagnie et il y a le besoin affectif. C'est que finalement, un animal de compagnie, c'est quand même un être vivant. Exactement. On peut lui faire des câlins. On peut lui raconter sa journée. On peut le transformer en journal intime même. On lui dit tout ce qu'on peut pas dire à nos parents, à nos frères et sœurs. C'est aussi un être affectif, en fait. Donc, du coup, ça vient combler un besoin d'être en lien affectif avec un autre être vivant qui n'est pas son frère, sa sœur, ses copains, ses copines, sa maman, son papa. Donc, il y a ces trois besoins-là, en tout cas, principaux que l'animal de compagnie va venir nourrir chez l'enfant. Et c'est important de le situer. Donc, oui, ça a un impact sur eux. Et le fait d'être en contact avec ces animaux-là, ça va les faire évoluer également. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Pardon, moi là, je suis personne pour dire que c'est bénéfique ou c'est pas bénéfique en fait. Par contre, en tout cas, les personnes qui ont vécu avec des animaux de compagnie, on détecte chez eux justement une plus grande empathie.
Ouais.
Donc du coup, la présence d'animaux de compagnie, ça développe une forme d'empathie, enfin une plus grande empathie, un sens de responsabilité peut-être plus tôt. Mais encore une fois, il s'agit que les parents les mettent en responsabilité.
Les tâches qui sont, aller sortir le chat le matin, quand le chat est malade, tout ça, qui s'occupe de ça?
Voilà, c'est ça. Donc les enfants chez qui ça a pu développer un sens de responsabilité, c'est que les parents ont su responsabiliser l'enfant. En disant, c'est toi qui l'as voulu, donc il y a ça, t'as pas de faire. C'est important de le resituer. Donc oui, ça peut, en tout cas au contact des animaux de compagnie, les enfants peuvent développer une forme d'empathie justement, développer un peu plus l'expression de leurs émotions, mais également justement ça va pouvoir permettre de travailler leur sens des responsabilités et le fait de qu'il y a un être vivant qui dépend de toi en fait. Et que tu vas dire, oui maman, je vais avec mes copains, je pars un week-end. Ton chien, là, c'est comment? Non. Du coup, ça s'organise, ça s'anticipe. C'est un excellent exercice. Je dis bien, quand on est OK avec ça, c'est un excellent exercice pour les adolescents, pour les aider à responsabiliser, à se projeter. Et il y a pas mal de surtout dans les pays anglophones où on travaille la parentalité, la responsabilité de devenir parent à travers des animaux.
Mais je pense que c'est important aussi de discuter avec l'enfant parce que lorsque l'on prend un animal, c'est pas pour un mois, deux mois, c'est pour des années ça. Et de lui dire tu le prends maintenant, même si t'es petit, j'espère que tu vas pas me le refourguer après, quoi. Parce que souvent, c'est ce qui se passe.
C'est exactement ça. Souvent, dans les questions que tu as posées, à partir de quel âge? Eh bien là, justement, ça va dépendre de l'animal de compagnie. Il veut un poisson rouge à 4 ans, à 2 ans, à 4 ans, 2 ans, c'est un peu tôt. À 4 ans, il veut un poisson rouge. On connaît approximativement la durée de vie d'un poisson rouge. On dit, OK, c'est pas engageant. Je suis pas en train de signer un contrat. Je suis pas en train de... Voilà, c'est possible. Il veut un chien à 4 ans. Bon, on est conscient que c'est nous qui allons tout faire. Donc, si on lui dit oui, et que derrière, on se plaint que, si je dois sortir, je dois me réveiller plus tôt. Mais monsieur, madame, comment vous pouvez céder un enfant de 4 ans à un chien qui a des... Si vous-même, vous n'en ressentez pas le besoin et l'envie, est-ce qu'à 4 ans, quel animal de compagnie allez choisir en fait? Moi, je dirais que c'est un animal de compagnie à la hauteur de l'enfant, c'est-à-dire par rapport à son besoin, par rapport aux besoins de l'animal. C'est important d'aller mesurer les besoins de l'animal. Et tu l'as dit, un élément super important, la longévité de l'animal. à la longévité d'un animal. Par exemple, on dit qu'un chien, c'est 10-12 ans, et encore ça continue encore à évoluer parce que la médecine fait des progrès pour les humains, mais aussi pour les animaux. Donc, ok, l'enfant veut un chien, ok, là, si je pars sur un chien, est-ce que je suis ok, moi, en tant que parent, du fait que je m'engage sur 12 ans? Point est déjà ado, il a 15 ans, là, ok, dans 12 ans, t'es pas là, tu pars avec ton chien ou pas? Non, on n'a qu'à se dire, tu pars avec ton chien ou pas?
Non,
mais c'est ça,
il les abandonne, il les laisse.
Ah, voilà, non, attends, après, il faut être au clair, donc tout ça, on le pose au moment de choisir l'animal, du coup, on prend en compte sa longévité, on prend en compte ses besoins, et puis, il y a une autre question qui est primordiale, ce que l'une de mes mamans disait, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est la nourriture. C'est un vrai budget, c'est un réel budget. Aujourd'hui, les animaux de compagnie, ils doivent être tatoués pour la plupart, ou ils doivent avoir, enfin, tatoués ou avoir une puce selon la catégorie. Ils ont un carnet de vaccination, ils ont un carnet de santé comme notre enfant, comme l'enfant lui-même là.
Et quand il tombe malade, quand il tombe malade là, vous payez aussi.
Et oui, donc il faut aller, il faut faire ses vaccinations, il faut faire ses rappels, il faut faire les puces, les trucs selon les catégories, selon les périodes. Il y a un budget, il y a une réalité, et puis il y a l'alimentaire. Donc il y a toutes ces questions-là qu'il va falloir mettre sur la table. Et ensuite, on arrive sur le dernier point qui est crucial, le temps. Le temps, cet animal a besoin de combien de temps? Quel est son environnement et combien de temps il a besoin? Si c'est un poisson, très bien, il a besoin que son eau soit changée à quelle fréquence? Si tu me dis tu prends un poisson rouge là, et si tu me dis tu vas aller prendre un capitaine, un capitaine ou un combattant que tu veux l'avoir dans ton aquarium chez toi, c'est pas les mêmes besoins. Donc comment on fait? Donc vos histoires là, j'allais dire, moi j'ai plus le droit de partir en week-end. Non, pour affaire d'animal là, on a plus le droit de partir en week-end. Donc tout ça là, c'est des éléments super importants. Le temps, il y a besoin de combien de temps? Est-ce que justement, je sais pas si c'est une souris, eh bien il faut la nourrir de quoi? Si c'est un serpent, parce que je t'assure, il y a une maman, son fils lui a fait acheter un serpent. Et le serpent se nourrit de souris.
Ah.
Donc il faut aller acheter des souris et tout. Et puis oui, et puis il n'est pas là. Et puis il est en garde partagée. Donc quand il est chez son père, c'est moi qui dois nourrir son serpent. Donc le contrat de départ, c'était quoi?
C'est ça?
Non, du coup, il m'avait dit que voilà, du coup, c'était son cadeau. Ah, mais du coup, il n'y a pas de contrat en fait. C'est super important d'aller chercher qu'il a un animal de compagnie ou qu'il n'en ait pas, qu'on puisse lui dire non et qu'on puisse l'expliquer en tant que parent pourquoi le non. Mais prenons tous ces éléments, même pour dire non à un enfant là, prenons tous les éléments et amenons-le lui-même là, à dire non en fait finalement c'est mieux.
Mais absolument, c'est tout à fait ça. On va lui donner toutes les contraintes et puis il va dire non.
Voilà, je suis pas sûre que, voilà, tu vas te lever à 5h pour aller sortir. Est-ce que tu es sûr que toi-même tu vas pouvoir tuer souris pour donner à ton serpent? Est-ce que tu es sûr qu'au fur et à mesure, lui-même, là, il va commencer à décrocher, il va dire bon, c'est mieux, je continue à les regarder dans les reportages télé, ils sont très jolis, voilà.
C'est ça?
Ou en tout cas, si on s'engage, et bien que l'enfant s'engage en conscience, que ce soit engageant pour lui, et qu'ensuite le parent, justement, l'amène à revalider. Moi, j'invite les parents qui prennent un animal de compagnie, quel que soit l'âge de l'enfant, à partir de 5 ans, à partir de 4-5 ans, si un enfant vous donne un animal de compagnie, on peut poser un contrat avec lui. Et du coup, quand ça ne va pas, et quand je dis poser un contrat, c'est prendre un papier, un stylo, écrire. L'enfant, il ne sait pas signer. Vous mettez son doigt dans la peinture, vous mettez sur la feuille.
C'est tout.
Non, et si l'enfant, il dit, oui, nana, ton poisson rouge, tu l'as donné à manger. Ouais, là, je suis en train de jouer. Hey. Papier qui est sur le mur, là, il y a écrit quoi? Je dois donner à manger à mon poisson tous les jours. Ok. C'est toi, c'est pas la trace de ton doigt qui est ici? Non! Il faut l'amener. Non!
Et ça va être
il faut poser des contrats. Il n'y a pas d'âge pour les contrats. Il n'y a pas d'âge pour les contrats. Il n'y a pas d'âge. Posez les contrats, mettez-les noir sur blanc, faites-les signer. Et mettez même, s'il ne respecte pas cette clause, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la dernière question, c'est où est-ce qu'on prend l'animal? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est là où est-ce qu'on rend l'animal éventuellement? Où est-ce qu'on prend cet animal-là? Eh bien, quand on est OK, bien sûr, pour prendre un animal de compagnie, où est-ce qu'on peut le prendre? Alors, il y a des personnes qui mettent, on le voit sur les réseaux sociaux, recherche un chat pour ma fille, pour cet été, ou recherche tel animal. Eh bien, on peut demander à son entourage direct ou indirect. Des fois, il y a des personnes qui me disent oui, ben en fait, non, je voulais pas de chien, mais le chien de ma sœur a eu une portée de temps et en fait, elle voulait pas les séparer, donc j'en ai pris un. OK? Donc ça peut être dans l'entourage, dans la famille, il y a des naissances, etc. Donc du coup, eh ben, on redispatche un petit peu les animaux, on va dire, volumineux. Il y Ça peut également être le fait de faire le projet avec l'enfant, aller acheter l'animal dans une animalerie pour le coup. Et donc finalement, là, on est vraiment sur du commercial. Et du coup, pour moi, la troisième catégorie, c'est les associations.
Ouais.
C'est les associations comme en France, ici, on parle beaucoup de la SPA.
Les animaux qui sont abandonnés ou récupérés.
Exactement, les animaux qui sont abandonnés, qui sont récupérés, etc., etc. Après, selon les parties du monde, il y a pas mal d'autres, différentes associations qui agissent différemment. Moi, par contre, je mets juste j'invite juste les parents à être vigilants. Quand on prend un animal dans un refuge, eh bien, on rend service à l'animal parce qu'on lui propose un nouveau mode de vie, un nouveau lieu d'habitation. Par contre, il faut être conscient que l'animal, de la même manière que nous, on a notre histoire, on a nos blessures, on a nos traumas, l'animal également, eh bien, s'il arrive en refuge, c'est qu'il a aussi son histoire, ses blessures et ses traumas éventuels. Donc quand on a des petits-enfants, il faut être très vigilant à demander au refuge quelle est l'histoire de l'animal qu'on récupère. Ça peut très 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 bien se passer. J'ai des témoignages d'histoires où ça s'est très 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 bien passé. L'animal a eu une seconde vie juste formidable. Et il y a des histoires aussi où ça a été dramatique. Parce que ils n'ont peut-être pas suffisamment pris la mesure du vécu de l'animal avant qu'il arrive dans leur foyer. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux poser sur les lieux où on peut les prendre. Mais je répète, Aïssa, c'est mieux on aille chercher des. Si on prend un animal, on fait contrat.
Ok, on va s'en souvenir en tout cas. Merci beaucoup Eva. Je rappelle que tu es ethnocoach en fusion culturelle. Tu nous rappelles un peu de quoi il s'agit?
Totalement. Alors du coup, justement, il s'agit de pacifier, comme tu l'as très bien dit, de faire de la médiation entre nos cultures d'origine. Donc souvent, la médiation, c'est deux personnes qui sont en conflit, qui s'entendent pas. Il y a un médiateur qui vient, qui pacifie, qui les écoute, qui crée la paix. Ben, je fais la même chose, mais à l'intérieur de chaque individu qui me contacte, c'est vraiment d'aller pacifier les deux, trois, des fois il y a cinq, six parties à l'intérieur d'eux, mais c'est cinq, six cultures avec lesquelles ils cohabitent au quotidien et des fois ils sont pas d'accord en fait, donc ça tire dans tous les sens et la personne elle est fatiguée, elle a pas d'énergie, elle a l'impression de faire du surplace dans sa vie, mais c'est parce qu'à l'intérieur ça part dans tous les sens. Donc mon objectif à moi c'est de l'aider à pacifier tout ça, à canaliser son énergie et à se mettre au service d'un seul projet, vision, espoir de vie.
Et on te trouve sur tous les réseaux et via le site internet www.evabaracoach.com pour les différents accompagnements. Donc, n'hésitez surtout pas, chers auditeurs. On va se retrouver demain, samedi, pour Affaires de Femmes, puisque tu seras encore de la partie. Et merci, oui, en tout cas, pour tout ça, pour tes éclairages. On parlera demain de l'afroféminisme.
Un grand sujet, un grand et beau sujet, donc à demain.
À demain, merci beaucoup Eva, bonne journée.
Avec joie, avec grand plaisir.
Ambiance Africa.
Ambiance
Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.